Chapitre 35. Luther Tillman enfilait son uniforme, après s'être douché et rasé, lorsque Rebecca le rejoignit dans leur chambre, en lui annonçant qu'un certain monsieur Booth Hendrickson, du ministère de la Justice, l'attendait en bas dans son bureau. Luther mettait un point d'honneur à ne pas juger les individus avant de les avoir rencontrés. Mais à peine avait-il pénétré dans son bureau, qu'il eut la conviction de se trouver en présence d'un homme peu recommandable.
« Shérif !»
le salua son visiteur en lui broyant inutilement les phalanges.
« Je vous présente toutes mes condoléances pour la perte de vos amis et voisins. C'est un véritable drame. Nous traversons une période difficile. »
Le costume noir d'Hendrickson devait coûter le traitement mensuel d'un shérif de comté tel que Luther, mais il dissimulait mal la silhouette décharnée et mal fichue de son propriétaire. Tout en s'évertuant à afficher son élégance, l'envoyé de Washington manquait de naturel, comme s'il avait longuement répété le moindre geste devant un miroir.
« Cette femme jouissait d'une réputation impeccable, » poursuivit Hendrickson, « ce qui ne l'a pas empêché de commettre l'irréparable. Sauf erreur de ma part, c'est Shakespeare qui disait « Oh, quel trouble l'homme dissimule-t-il en lui-même, bien qu'il ait l'apparence d'un ange !»«
Si vous le dites, » répliqua Luther. « Dans le cas de Cora Gunderson, je ne sais pas de quel trouble elle souffrait à la fin de sa vie, mais elle s'est comportée comme un ange pendant des années.
Je n'en doute pas au vu de l'estime en laquelle tout le monde la tenait jusqu'à hier. Je reste persuadé que cette femme a été victime d'une tumeur au cerveau, ou de problèmes d'ordre psychiatrique, loin de moi l'idée de lui jeter la pierre. »
Hendrickson avait un visage allongé, avec des traits acérés, de longs cheveux poivre et sel en crinière, qui accentuaient un front immense au-dessus de ses yeux de prédateur.
« Asseyez-vous, je vous en prie. »
l'invita Luther en délaissant le second fauteuil pour s'asseoir derrière son bureau, de façon à mettre de la distance entre son visiteur et lui. Hendrickson se rassit, rectifia le pli de son pantalon au niveau de la cuisse gauche et regarda son hôte en prenant une pose théâtrale.
« Une longue journée nous attend, shérif. »
Luther remarqua la présence sur son bureau de quelques feuilles dactylographiées retenues par un trombone.
« De quoi s'agit-il ? » « La disparition tragique d'un gouverneur et d'un membre du Congrès, » répondit Hendrickson. « Les gens ont besoin qu'on les rassure. 44 autres personnes ont perdu la vie lors de ce drame. » « C'est vrai, et c'est bien le plus tragique. Ces gens se sentaient en sécurité en présence du gouverneur et d'un parlementaire. Ils se sont lourdement trompés. Face à la montée du terrorisme dans le monde, nos concitoyens ont besoin de savoir que leurs dirigeants réagissent avec la plus grande fermeté. »
Cora Gunderson n'était pas une terroriste, le corrigea Luther.
Je vous le concède, elle n'avait pas le profil d'un djihadiste, mais des rumeurs finiront par circuler comme toujours en pareil cas. Les réseaux sociaux sont des repères de paranoïaques, sans compter les factieux qui se montrent toujours prompts à exploiter les tragédies de ce genre à des fins démagogiques.
L'envoyé du ministère de la Justice se présentait sous les traits d'un fils de bonne famille de Nouvelle-Angleterre, champion du bien commun, mais derrière cette façade se dissimulaient des origines nettement plus humbles. On sentait chez lui la satisfaction d'un opportuniste fier de la façon dont il affectait l'appartenance aux classes supérieures. Luther, à qui le personnage avait déplu au premier abord, sentit monter son dégoût.
« De quoi s'agit-il ? » insista-t-il en tapotant les feuillets du doigt.
« Nous avons prévu de donner une conférence de presse ce matin. En pareil cas, le ministère de la Justice veille à ce que les autorités locales et fédérales s'expriment d'une même voix afin de mieux apaiser les angoisses des gens. »
Luther ne goûta guère la manière dont Hendrickson parlait des gens. On aurait pu croire qu'il faisait référence à une bande d'enfants ignorants ou à une plèbe inculte. Luther lut en diagonale le texte posé devant lui.
« J'ai du mal à vous suivre. Vous comptez sur moi pour lire un texte tout préparé lors de votre conférence de presse ?»« Il a été rédigé par un spécialiste qui écrit régulièrement les discours du ministre et même du vice-président. Il vous a réservé sa prose la plus éloquente. Vous serez le héros du jour dans les médias du pays tout entier. »
Luther trouva la force de réfréner sa colère.
« Vous m'en voyez désolé, mais je ne serai pas en mesure de lire ce texte, sachant que mes services ne sont pas impliqués dans l'enquête. »
Sans doute parce que son fauteuil le mettait en position d'infériorité par rapport au shérif, Booth éprouva le besoin de se lever. Il s'approcha de la fenêtre et observa longuement le paysage, persuadé que son silence pousserait le shérif à reconsidérer sa position. Voyant qu'il n'en était rien, il se retourna vers son hôte, à la façon du procureur interprété par Charles Laughton face à l'accusé dans un vieux film anglais.
« Si vous ne vous sentez pas en mesure de nous apporter votre coopération, monsieur Tillman, je crains fort que vous n'ayez pas votre place lors de la conférence de presse. »
« Eh bien, tant pis.
J'ose espérer que vous n'avez pas l'intention de rencontrer la presse de votre côté. »
« Je n'ai aucune raison de convoquer la presse, monsieur Henriksen. Je ne sais quasiment rien. Personne ne m'a rien dit. Je n'ai aucune envie de passer pour un imbécile. En toute connaissance de cause, j'entends. »
Henriksen récupéra les feuillets sur le bureau de son interlocuteur, d'une main pâle et lisse aux ongles soigneusement manucurés.
« Tout en regrettant votre position, je suis heureux d'avoir trouvé un compromis qui nous satisfasse tous les deux. »
« Disons plutôt un arrangement, » le corrigea Luther en se levant. « Laissez-moi vous raccompagner, monsieur Henriksen. »
En franchissant le seuil de la maison quelques instants plus tard, le visiteur se retourna.
« Dites-moi si je me trompe, shérif. J'imagine que le service que vous dirigez est largement dépendant des subsides fédéraux. »
« Absolument. Et nous en sommes très reconnaissants au gouvernement, » sourit Luther, mettant au défi Henriksen de lui sourire à son tour.
Ce dernier, tel un vieil épouvantail dans son beau costume, lui tourna le dos. Mais loin d'aller chasser les oiseaux picorant le maïs des champs voisins, il regagna sa voiture avec l'intention de nourrir les plus crédules avec des grains de maïs d'un autre genre lors de sa conférence de presse.
« Une dernière question !»
s'éleva la voix de Luther dans son dos. Il s'immobilisa et tourna la tête.
« Savez-vous si le responsable des pompiers du comté a pu identifier l'agent chimique qui a servi à réduire en cendres la maison de Cora Gunderson ?»«
Il s'agissait d'essence. De l'essence en grande quantité. »
« Est-ce l'opinion du responsable des pompiers ?»«
C'est ce qu'il compte déclarer à la presse. »
« Un incendie particulièrement violent, » commenta Luther.
« Absolument, » rétorqua Henriksen.